Alors, nous voilà de retour aux amateurs de sport week-end. C'est maintenant le moment de jaser soccer avec Vandril Lefebvre. Salut, Vandril.
Salut, Jérémy.
Vandril, je vais commencer avec le scénario complexe du CF Montréal pour le match d'aujourd'hui. Il faut comprendre que dans la MLS cette année, il y a très peu de matchs où une équipe va voyager de l'Est à l'ouest ou même l'inverse, puisqu'on est dans une année COVID, on essaie de garder les voyages quand même assez limités. Sauf qu'on voulait absolument un rendez-vous dans la MLS entre le CF Montréal et les Whitecaps de Vancouver qui ont une belle rivalité. On va en parler dans quelques instants. Sauf que on n'a pas été en mesure de donner à l'Impact une préparation adéquate pour ce match-là. On ne leur a pas donné la permission de voyager deux jours avant le match. Donc là, on fait un voyage de 5 heures. On traverse le continent, on arrive moins que 24 heures avant le début du match. Là, il faut s'adapter à l'altitude, il faut s'adapter au changement d'heure. Disons qu'il n'y a pas grand-chose pour avantager le CF Montréal dans ce match-là. Je trouve que la MLS vraiment n'a pas pris en considération les besoins de cette équipe-là. Écoutons Wilfried Nancy sur ce dossier-là, je te laisse réagir ensuite.
Ouais, c'est sûr. Quand on a appris qu'on ne pouvait pas venir deux jours avant, ben, c'est sûr que ça m'a dérangé. On nous a expliqué pourquoi, mais bon, il faut faire avec. Sachant qu'il y a surtout 2 heures de décalage, qu'il y a 4h30 de vol, ou 5h de vol, et qu'en même temps, il y a l'altitude, effectivement. Donc, on joue à 13h en plus, l'heure de là-bas. Donc, ouais, je vais prendre ça en compte. Maintenant, après, j'en ai parlé au niveau des joueurs, on a discuté un peu par rapport à ça. Donc, je dois encore réfléchir un peu, mais c'est sûr que c'est un facteur qui est important à prendre en compte, oui.
Vandril, est-ce que ce voyage-là et ce match-là, même si on aime bien les duels Montréal-Vancouver, était nécessaire?
Non, vraiment pas. Écoute, je suis pas dans l'organisation, dans toute la logistique qui sous-tend le fait que ce voyage-là ait été organisé dans ces conditions-là. Mais si je juge les conditions, c'est ridicule parce que on le sait, puis il y a qu'à regarder les statistiques depuis des années. La MLS est une ligue où il est particulièrement difficile de voyager. De base, même pas du contexte pandémique dans lequel on est depuis quelques mois. Là. De base, c'est difficile de voyager, puis les résultats s'en ressentent, c'est clair et net année après année. Donc là, tu rajoutes à ça un contexte dans lequel tu n'es même pas capable de te familiariser avec le décalage horaire et tu n'es même pas capable de te familiariser non plus avec l'altitude en prenant une certaine marge par rapport au match. Donc, c'est sûr que à l'approche de ce match, sans chercher des excuses pour le CF, on part pas avec un avantage. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
Non, ça c'est certain. Et en plus, ce que les gens ne réalisent peut-être pas, c'est que hier soir, parce que les Whitecaps partagent les infrastructures du Real Salt Lake, puisque comme le CF Montréal, ils ne peuvent pas jouer à domicile, donc ils se sont installés à Salt Lake City. Mais il y a eu un match hier soir entre San Jose et Real Salt Lake sur le même terrain. Vandril, au niveau professionnel où tu as évolué, as-tu déjà été obligé de jouer un match sur un terrain qui avait été utilisé la veille?
Non, ça aussi, c'est pas du tout dans les us et coutumes dont c'est censé être dans ce sport-là. On sait à quel point 90 minutes de bataille, hein, 90 minutes de bataille acharnée sur un terrain d'une pelouse naturelle peut vraiment détériorer les conditions de jeu pour l'équipe qui va revenir le lendemain, quoi. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, encore une fois, puis là on y revient parce qu'on va mêler un petit peu cette réalité aussi à la philosophie de jeu du CF Montréal, vouloir jouer à terre, utiliser la vitesse d'exécution, la vitesse des joueurs balle au sol. C'est pas non plus là aussi quelque chose qui va les avantager aujourd'hui.
Oui, ça c'est certain. Bon, écoutez, il reste que c'est un match intéressant. On a deux entraîneurs québécois qui ont passé plusieurs années de leur formation, de leur stage chez l'Impact de Montréal. On parle bien sûr de Wilfried Nancy, qui est le nouvel entraîneur-chef du CF Montréal. On parle aussi de Marc Dos Santos, qui a passé des années ici. Marc est épaulé par son frère, un autre Québécois, donc deux Dos Santos. Bien sûr, il y a Maxime Crépeau qui est là-bas. Donc, c'est toujours intéressant, les duels Montréal-Vancouver, pour toutes les raisons qu'on vient de vous expliquer. Écoutons l'entraîneur Wilfried Nancy sur cette petite rivalité amicale entre lui et Marc Dos Santos, ancien entraîneur aussi de l'Impact.
Non, Marc, beaucoup de respect pour Marc. Marc, j'ai envie de dire qu'on a grandi ensemble à Montréal. On a eu pratiquement la même histoire, sauf que lui, il est allé un peu plus vite. Il a pris la Ferrari, moi j'ai pris la 2 chevaux. Mais après, pour le reste, Marc, c'est un gars que je respecte beaucoup. Et donc, je suis content qu'il ait eu cette opportunité d'être à Vancouver. Donc, Bien sûr que j'ai envie de gagner tous les matchs et j'ai envie de gagner contre Vancouver comme le match contre l'Inter Miami, ça sera la même chose. Oui, on joue une équipe canadienne, ça c'est un facteur aussi qui est important, mais ça va rien changer à notre façon de jouer. On va jouer de la même façon parce que c'est comme ça qu'on est et on a envie de pas prendre de but et de marquer des buts. Et après on verra à la fin du match qui gagnera ce match-là, mais c'est sûr que j'ai hâte de jouer contre Marc et les frères de Santos et Youssef et toutes les personnes que je connais là-bas.
La rivalité Montréal-Toronto est peut-être plus frappante aux yeux de tous, mais depuis que Marc Dos Santos est rendu avec les Whitecaps, en plus, il a amené Youssef Daha avec lui, le gardien, l'entraîneur des gardiens, qui est un gars aussi d'ici. Disons que ça a ajouté un petit peu d'épices à cette rivalité.
Oui, c'est clair. Il y a toujours eu une histoire spéciale entre l'Impact et les Whitecaps depuis avant même l'ère MLS. Elle a pris une autre tournure, on le sait, avec le but d'Assun Kamara en 2013, au moment où on est allé chercher le championnat canadien là-bas. Donc, il y a une énorme rivalité qui est implantée. C'est vrai que le fait que maintenant c'est Est-Ouest, on n'a pas nécessairement l'occasion de les rencontrer très souvent. Mais là, tu rajoutes un petit peu aussi une saveur, je dirais, un peu familiale, une saveur un peu francophone à tout ça. Il y a Max Crépeau, il y a Youssef, il y a Marc Dos Santos de l'autre côté. Je pense que ça, pour les spectateurs, ça peut être des conditions intéressantes parce qu'il y a des petits duels, il y a des petits matchs dans le grand match dont on aura l'occasion d'être spectateur cet après-midi.
Bon, là, on va dire la vérité. Ça prend quand même de la préparation, de l'organisation pour ce type de match-là. Parce que là, dans le cas du CF Montréal, c'est 3 matchs en 8 jours. Donc, ils vont retourner à Miami en milieu de semaine, jouer un match entre guillemets, sur la route, même s'ils vont jouer dans leur domicile, contre Miami. Et ensuite, un match où ils devront voyager vers Atlanta, un match où le voyage sera beaucoup plus court. Mais on s'entend, Vandril, moi, j'ai l'impression qu'on va avoir des petites surprises dans l'alignement d'aujourd'hui. Il y a peut-être même des joueurs qui n'ont pas fait le voyage parce qu'il faut que tu te gardes des munitions. Wilfried Nancy a dit cette semaine, mon plan et la priorité, c'est de me retrouver dans le 3e match de cette séquence en 8 jours avec un certain nombre de joueurs qui sont quand même frais à ma disposition. Donc, je ne sais pas pour toi, mais moi, je m'attends à des changements dans l'alignement partant aujourd'hui.
Non, c'est clair. Puis en plus, écoute, historiquement, quand on gagne des matchs quand il y a 3 matchs dans une semaine, on a tendance à penser que c'est le match du milieu de semaine dans lequel on vient un petit peu faire des changements pour permettre aux 2 matchs des extrémités d'avoir ta pleine équipe. Là, moi, je pense que ça peut être différent. Pourquoi ? Parce que la configuration, Vancouver étant dans l'Ouest, c'est pas nécessairement un adversaire direct, même si on a expliqué le contexte juste avant. Ouais. Je pense que les 2 matchs successifs, après celui de mercredi et celui du week-end prochain, sont les plus importants. C'est des adversaires de l'Est, c'est des bons adversaires, sans rien enlever à Vancouver, qui est une bonne équipe. Mais je pense que c'est effectivement, Jérémy, j'ai le même diagnostic que toi, peut-être aujourd'hui. On va avoir un peu plus de surprises et je m'attends à voir une équipe type, entre guillemets, mercredi et samedi, beaucoup plus chevronné.
Ouais, je pense que ça va ressembler à ça aussi, même que j'ai pas l'impression que Samuel Piette sera du 11 partant pour le match de cet après-midi. Écoutons Sam sur sa blessure et dans quelles conditions il est présentement.
Le coup que j'ai reçu, en fait, pour être très précis, c'est une frappe bloquée qui était assez banale. Mais j'ai quand même souffert là, de cet impact-là. J'ai eu une entorse au pied droit avec une contusion, exactement où à chaque fois que je fais une passe, que je frappe, il y a un contact avec la balle. Donc, les jours suivant ce match-là, c'était le 17 avril contre Toronto pour un match. C'était assez douloureux. On a réussi à réduire la douleur puis être en mesure de jouer. C'est sûr que contre Nashville, ça m'embêtait beaucoup. Ça s'est pas amélioré. La douleur s'est pas améliorée. Donc, c'est sûr que ça m'empêchait d'être à 100%. Ça m'empêchait d'être à 100% durant la semaine d'entraînement. Donc, c'est sûr que j'étais peut-être un peu moins bien. Puis aussi, ben, je sais que le changement de joueur, en fait, la rentrée d'Amar, c'était aussi tactique. Je sais que Will voulait amener un joueur un peu plus offensif. Donc, j'ai pas été sur le banc que parce que j'étais blessé. J'étais pas 100%, mais aussi c'était au niveau tactique d'amener quelque chose de différent.
Donc, si on laisse à Samuel 3 ou 4 jours de plus pour se rétablir, peut-être que si Wanyama est dans le 11 aujourd'hui, on peut faire cette rotation-là en milieu de semaine. Peut-être que Sam peut jouer seul à la position de milieu défensif en 6 mercredi et donner un repos à Wanyama. Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible?
Non, absolument. Puis ça, c'est des informations qu'on est capable aussi de tirer, ou du moins une analyse qu'on est capable de faire suite au match. La belle performance du club la semaine dernière. On s'est passé de Samuel Piet, qui n'est pas habituel. Hein. On sait que Samuel, c'est quelqu'un qui a tendance à enchaîner les matchs depuis 2017 qu'il est au club. Donc, un schéma sans Samuel Piet, c'est pas nécessairement habituel pour le club. Là, par la force des choses, mais aussi par un choix tactique, mais aussi parce que la profondeur de l'effectif le permet, on a vu une nouvelle dynamique. Et le club n'a pas été plus mauvais la semaine dernière. Le club a même été particulièrement intéressant dans sa capacité à faire voyager le ballon extrêmement rapidement. Puis oui, je pense qu'il y a une filiation un petit peu naturelle entre un Amar Sedić et un Georgi Mihajlović qui fait que la combinaison peut être intéressante. Maintenant, on ramène un Hamdi. Et est-ce que Samuel ou Wanyama sont des joueurs capables d'assumer le rôle de milieu défensif tout seul dans un certain schéma tactique? Moi, je pense que oui.
Je pense que oui aussi. Je pense qu'un gars comme Zach Brouquillard, qui est sorti sur blessure la semaine dernière, c'est pas impossible qu'il saute son tour, par exemple, cet après-midi. On verra la gravité de sa blessure. Il y a un gars qui a quand même beaucoup impressionné la semaine dernière, c'est Ahmed Hamdi. C'est un nouveau joueur qu'on est allé chercher du côté du CF Montréal cette année. Donc, il a joué 25 minutes approximativement. Il a vraiment fait écarquiller des yeux. Sauf que dans le cas d'Ahmed Hamdi, présentement, lui, il suit, disons, le ramadan. Et donc, ça fait en sorte qu'il a eu une semaine un petit peu particulière comparativement aux autres joueurs. On s'entraîne au soleil. Il fait plus de 35 degrés en Floride. On parle ici d'un joueur qui ne peut pas manger ou boire durant le jour. Je crois qu'il doit attendre à 22 heures le soir. Même si on aurait pu penser que cette semaine, il aurait pu obtenir un départ suite à sa performance de la semaine dernière, si sa semaine a été s'est déroulée de cette façon-là, c'est un peu difficile de penser qu'il pourrait être partant aujourd'hui et jouer un match complet. Là.
Être partant, jouer un match complet, je suis tout à fait d'accord avec toi. Être partant, ben, ça dépend. Si être partant pour sortir à l'heure de jeu, ça peut se faire maintenant, tu as raison. C'est sûr qu'en lien avec sa confession, Hamdi a des défis ces temps-ci, parce que faire le ramadan à ce temps-ci de l'année, c'est pas évident. Écoute, j'ai eu des coéquipiers, même maintenant, mais au travers de ma carrière, qui ont fait le ramadan dans les périodes un petit peu estivales. C'est pas facile. Hein. Faut le comprendre que c'est vraiment pas évident. Donc oui, c'est un mois qui est particulier pour lui. Mais la semaine dernière, écoute, il nous a montré des choses extrêmement intéressantes. Oui. Je pense qu'il faut aussi rester calme et pas nécessairement s'enflammer. Ça reste une entrée de match. Faut voir dans quelle mesure il est capable non seulement de répéter ça, mais de le faire sur une base je dirais d'une plus longue durée. La semaine dernière, c'était plus un 20-25 minutes, mais il a été extrêmement intéressant, pas seulement par sa qualité, par le profil de joueur qu'il est. Il est un profil de joueur qu'on n'a pas vu depuis longtemps au club, dans cette capacité, dans l'entrejeu, vraiment au milieu de terrain, de connecter vite, de prendre le ballon. Il y avait des feintes, petit ballon piqué au deuxième poteau. Moi, il a vraiment fait écarquiller des yeux, avec raison, la semaine dernière.
Oui, absolument. Bon, cette semaine, en fait, c'est jeudi, je crois, le Toronto FC a confirmé l'arrivée de leur troisième joueur désigné, Jefferson Soteldo, qui vient de l'équipe de Santos au Brésil, là où a déjà joué aussi Pelé et Neymar, soit dit en passant. Et en conférence de presse, le président du Toronto FC, Bill Manning, a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit « Les bonnes équipes de la MLS ne se trompent pas dans leur embauche de joueurs désignés. » Et écoute, pour moi, c'était un peu une flèche directe au CF Montréal, parce qu'on l'a dit là, un peu à la blague, mais du côté du CF Montréal, ce ne sont pas des joueurs désignés, mais des joueurs un peu déguisés, j'appellerais ça, parce qu'on déguise des joueurs qui ne devraient pas avoir l'étiquette de joueurs désignés en joueurs désignés. Est-ce que, écoute, on est complètement sur deux planètes, là, on va se le dire encore une fois, le Toronto FC qui a sorti l'argent et qui a dit « Nous, on pense que ce joueur-là va nous aider à gagner le championnat cette année. » Et c'est le même discours qu'on tient à toutes les années, dans le fond. Là.
Non, c'est clair. Puis c'est là où je suis d'accord avec toi. La contextualisation, encore une fois, est extrêmement importante. Mais il faut rendre à César ce qui lui appartient. Le Toronto FC, depuis la moitié des années 2010, effectivement, ils ne se sont pas trompés souvent sur leurs joueurs désignés. On pense à Jovinko, Altidore, Bradley, Celteldo maintenant. Il y en a eu d'autres, on peut les nommer. Ça a toujours été des joueurs qui sont venus et qui ont eu un impact instantané sur l'équipe et qui se sont fondus admirablement dans la philosophie de jeu de Toronto FC. On a beau, évidemment à la blague, on les aime pas trop nous à Montréal ici, mais il faut respecter ce qu'ils mettent en place depuis la moitié des années 2010. Right. Ils sont là après année, une équipe compétitive, et oui, ils sont capables d'intégrer des joueurs désignés de grande qualité. Maintenant, on n'a pas la même, je dirais, philosophie de recrutement du côté de Montréal. Et puis, c'est pas une hiérarchie, c'est pas un jugement de valeur. On a une philosophie qui est différente. On n'est pas à plaindre non plus, hein, avec nos Drogba et nos Piatti. Mais oui, ils ont eu un peu plus de réussite que nous.
Voilà. Alors, Vandrine Lefebvre, on va te souhaiter un bon match à partir de 15h aujourd'hui, Vancouver contre Montréal, en direct de Salt Lake City. Et on pourra t'écouter demain, bien sûr, aux amateurs de sport week-end avec Evelyne Audet, à savoir qu'est-ce que tu as pensé du match aujourd'hui. Alors, on se reparle sous peu. Merci beaucoup.
Merci, Jérémy.
Salut. Vandrine Lefebvre, notre analyste soccer. Et au retour de ceci, on va parler de baseball, puisqu'il y a eu beaucoup d'actualités dans la MLB cette semaine, notamment la fin de l'association entre le grand Albert Pujols et les Angels de la Californie. On vous revient dans quelques instants.